Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc Roussillon. En ce mois de janvier 2015, Radio Aviva est rédactrice en chef de cette émission. Au sommaire de ce numéro, avec RCF Pays d'Aude, on se demandera d'abord comment mieux valoriser nos ressources forestières. 5 mois après les inondations de septembre, la commune de Saint-Laurent-le-Minier en est encore au nettoyage et pour cela les habitants du village et d'ailleurs se mobilisent. C'est Radio Escapade et Rémi Goujon qui nous emmèneront à Saint-Laurent-le-Minier. Avec Radio Aviva, nous irons voir les notaires de l'Hérault qui sont inquiets du projet de loi du ministre de l'Économie Emmanuel Macron et qui le font savoir. Toujours avec Radio Aviva, nous ferons un point sur ce que certains appellent l'après Charlie et verrons quel impact les attentats ont pu avoir sur le métier de journaliste. Et toujours dans cet après Charlie, Lauriane Avar d'RCF Hérault nous emmènera au séminaire sur la laïcité organisé par l'Académie de Montpellier le 20 janvier dernier. C'est parti pour ce nouveau numéro de Carnet de Région. Comment mieux valoriser nos ressources forestières locales? C'était l'objet d'un colloque qui s'est tenu ce jeudi à Montpellier, au micro de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude, Dominique Delarochette, délégué pour la Fédération nationale des communes forestières.
Le 22 janvier, nous serons accueillis au Conseil général de l'Hérault, qui est, très à la pointe sur tout ce qui est construction en bois local. Nous serons aussi accueillis par Francis Cross, qui est vice-président de notre Fédération nationale et qui est président de l'Union régionale des communes forestières du Languedoc-Roussillon. Lui-même s'est engagé dans la construction bois local à La Salvetat. Le colloque fait un bilan à mi-parcours du programme Sans construction publique en bois local. C'est un programme que nous avons initié et qui met en avant la construction en bois local portée par des collectivités publiques. En fait, les élus aujourd'hui et les collectivités sont des leviers majeurs pour développer et structurer la filière forêt-bois. Ils sont aménageurs du territoire, propriétaires de forêts ou intéressés par le développement de la filière forêt-bois. Et puis aussi, ils sont donneurs d'ordre dans le cadre des appels d'offres et marchés publics. Donc ce sont les mieux placés pour décider de construire en bois local ou bois de nos massifs, de nos régions.
Comme élément technique par rapport à la construction elle-même, qu'est-ce qui va les motiver? On s'y sent bien dans ces maisons en bois local?
Ah oui, on s'y sent très bien et d'autant plus, j'allais dire, que quand on sait que le bois est issu de son territoire et qu'il présente des qualités, bien sûr, esthétiques, mais aussi environnementales, énergétiques aussi, tout autant que d'autres bâtiments. Pour vous redonner le cadre, nous avons lancé ce programme en 2012 avec des projets pilotes, des projets démonstratifs. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une soixantaine de projets, notamment en Languedoc-Roussillon, et les collectivités qui se sont engagées dans la construction bois ont pu démontrer que c'était un matériau moderne, innovant, performant et très apprécié des habitants. Je crois qu'avec le bois, on a souvent un lien et un attachement particulier.
Dominique Delarochette, délégué pour la Fédération nationale des communes forestières, répondait à Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
17 septembre 2014, le village de Saint-Laurent-le-Minier est touché par la pire inondation de son histoire. Les deux ruisseaux qui le traversent, le Naduel et le Cranze, débordent et emportent tout sur leur passage. Des dégâts considérables qui ont entraîné une vague de solidarité sans précédent. Mais les traces de la catastrophe sont encore visibles sur les berges de la Vis et de l'Hérault en aval du village. Et c'est pour cela que l'association Resurgentia a organisé le dimanche 18 janvier une journée de nettoyage, comme l'explique Frédéric. Un des membres de cette association par téléphone à Rémi Goujon pour Radio Escapade.
C'est inimaginable autant la catastrophe qu'on a vécue comme inimaginable autant le soutien de la part des gens. Là on fait encore appel à eux, mais c'est vrai que c'est très sympa quand même. L'idée de l'association, c'est quoi? C'est d'avoir un groupe de gens qui se positionnent entre les compétences qu'ont l'équipe municipale, qu'à l'équipe municipale, et les sinistrés, voilà, dont on fait tous partie, plus ou moins. Voilà, donc ça c'était bien aussi de continuer un peu, de faire des choses que peut pas faire la mairie, parce qu'on est toute une toute petite commune de 360 habitants. Hein. Voilà, et puis moi j'ai pris en charge l'organisation du nettoyage des berges de nos rivières, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être sales. C'est quand même une rivière de première catégorie, la Vis, puis la Crance et le Naduel, voilà. Donc pourquoi on va faire ça? Ben parce que ça nous permet d'abord d'enlever toute cette pollution visuelle qui sont les plastiques, qui l'eau est rentrée dans les maisons, a emporté tout ça, donc il y a des plastiques dans les arbres, voilà, il y a du nettoyage à faire. On profite de la saison, hein, janvier, février, mars, parce que les eaux sont basses, et puis il n'y a pas de feuilles. Donc quand la végétation va repousser, forcément, ça va cacher tout ça, donc ça serait bien qu'on enlève un maximum maintenant. On va essayer de faire notre maximum ce 18 janvier, là, ce dimanche prochain. Voilà. Bon, les bénévoles font pas le travail de la collectivité, parce qu'il y a quand même, il faut quand même le rappeler, il y a quand même des gens qui sont payés pour nettoyer les rivières, mais ils font ce qu'ils peuvent, il y a des budgets qui sont limités, donc il y a le CIVU, il y a quelqu'un que tout le monde connaît, c'est monsieur Alain Canales, passionné des eaux et tout ça, qui lui a des équipes et qui nettoie en fonction de son budget. Il y a le Saint-Thomas qui gère les déchets, qui nous ont gentiment prêté une benne pour pouvoir mettre les déchets, et ils vont s'en occuper lundi prochain, lundi d'après, voilà. Et puis on a quelques soutiens quand même, monsieur Bricolage, monsieur Superru, enfin je sais pas, quelques pharmacies, une pharmacie de Ganges qui nous a permis de monter les trousses de secours. C'est toute une organisation, j'espère, qui va être bien réussie et qui va nous permettre de nettoyer jusqu'à l'Hérault, j'espère, avec y compris la vis. Ouais.
C'était un sujet de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le projet de loi Macron, actuellement toujours en examen à l'Assemblée nationale, renferme en son sein, entre un certain nombre de choses, une réforme des professions réglementées, c'est-à-dire, pour donner quelques exemples, les professions de pharmacien, avocat ou encore de notaire. Autant dire que depuis l'annonce de ce projet de loi, toutes ces professions et quelques autres sont inquiètes et le font savoir. Les notaires du département de l'Hérault menaient jeudi 22 janvier au matin une énième action de contestation. Ils étaient une petite centaine réunis devant la Caisse des dépôts à Montpellier et portant tous l'écharpe rouge. Selon eux, la réforme met gravement en danger la profession en prévoyant notamment la mise en concurrence des cabinets pour jouer sur les prix ainsi que leur libre installation sur le territoire. Maître Arnaud Razigade, président de la Chambre des notaires de l'Hérault, faisait partie des manifestants. Au micro de Radio Aviva, il explique le sens de leur action.
Alors nous sommes ici aujourd'hui devant les locaux de la Caisse des dépôts, c'est un peu pour manifester notre inquiétude par rapport au projet de loi Macron et aux incidences en termes de casse sociale que ça va avoir, puisqu'il faut savoir que ça aura bien sûr un impact financier sur nos structures et que la Caisse des dépôts est notre partenaire historique et quasiment exclusif en termes de financement. Donc nous venons voir la Caisse des dépôts pour voir les modalités d'accompagnement des notaires, parce que la plupart des notaires qui sont ici, environ 70 à 80% ont des prêts en cours auprès de la Caisse des dépôts. Et ensuite, il y a des problèmes financiers qui ne vont pas manquer de se faire jour avec les problèmes d'indemnisation de nos salariés qui vont être licenciés.
Vous arrivez à mesurer à peu près ce que la réforme Macron pourrait changer pour vous
Alors oui, de façon très claire, puisque contrairement au gouvernement, nous avons fait des études d'impact très précises. Au niveau national, c'est 20 000 salariés qui seraient licenciés. Sur le département de l'Hérault, c'est 238 salariés sur les 840 que compte le département actuellement. Et nous avons à peu près une quinzaine d'études qui seraient en faillite, si vous permettez le terme, qui est plus trop juridique, et 48 études qui seraient en difficulté. Il faut savoir qu'on a 87 études sur le département, ça fait donc 71% des offices qui seraient fragilisés.
Alors est-ce qu'il y a des négociations sur cette réforme? Est-ce que le gouvernement vous répond quand vous faites ce genre d'action?
C'est le problème qu'on a depuis le début de la mise en place de cette réforme. On a des concertations de façade avec le gouvernement, une oreille qui peut paraître attentive mais qui n'entend pas la profession. Et donc nous avons beaucoup de mal à faire passer les propositions qui sont constructives, qui vont dans un sens de réforme de la profession, parce qu'on en est bien conscient, c'est nécessaire. Mais malheureusement, non, nous ne sommes pas entendus par le gouvernement.
Et la réforme Macron touche d'autres professions réglementées. Est-ce que les notaires discutent, je ne sais pas, par exemple, avec les pharmaciens pour, à la fin, peut-être coordonner une action ?
Alors, il est certain qu'on coordonnera sûrement une action à la fin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, normalement, nous devions être toutes les professions réglementées, enfin libérales plus exactement, sous la bannière de l'UNAPL à Paris. Compte tenu des tragiques événements du début d'année, on a considéré que ça n'était pas le moment de manifester dans la rue, mais effectivement, ça n'est que reculer pour mieux sauter, si je peux me permettre l'expression.
Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une action nationale ?
Non, c'est sûrement, ça sera repris par quelques départements, mais c'est une décision qui a été prise de façon instantanée hier soir, puisque j'avais réuni de façon exceptionnelle l'ensemble des notaires du département.
Et vous espérez qu'elle réouvre le dialogue avec les autorités ?
Ben, surtout, voilà, que ça puisse permettre de discuter avec les autorités, parce que la Caisse des dépôts en elle-même, ça reste un partenaire, ce n'est pas avec eux qu'on a dialogué au niveau de cette loi Macron, mais ça permettra de faire remonter l'inquiétude et peut-être que les autorités, effectivement, arrivent à nous entendre.
Maître Razigade, merci.
Merci à vous.
Arnaud Razigade, président de la Chambre des notaires de l'Hérault, répondait au micro de Radio Aviva.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Il y aura un après Charlie. C'est une phrase que l'on entend beaucoup en ce moment. Après les terribles événements de ce début d'année, de nombreux secteurs de la société remettent en question leur façon de fonctionner. C'est le cas dans le secteur de l'éducation, comme nous le verrons tout à l'heure avec le sujet d'RCF Hérault, mais c'est aussi le cas dans les médias. Agnès Morin est directrice du Club de la Presse à Montpellier. Au micro de Baptiste Flayol, elle donne ses vœux à la presse et annonce le cap à tenir. Agnès Morin.
Alors mes voeux, écoutez, ils sont simples. Hein. J'espère que on est à 15 jours là, des événements liés aux attentats à Charlie Hebdo et dans l'hypercacher. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est ce qu'on a dit hier au vœu du Club de la Presse devant toute la profession, c'est que on reste vraiment dans la mouvance de ce qui s'est passé depuis 15 jours, que la presse comprenne qu'elle a... On le dit toujours, hein, les médias font partie, sont un des piliers de la démocratie. Mais au-delà de le faire dans le contenu des médias, je pense qu'aujourd'hui, les journalistes ont une responsabilité citoyenne qu'il faut qu'ils remplissent en intervenant auprès des jeunes, notamment, sur l'éducation, la liberté d'expression en France liée aux médias. Et donc, je crois qu'il y a... De pas mal d'actions à mettre en place et notamment une qu'on est en train de monter avec le rectorat de Montpellier qui est de former des journalistes de la région à intervenir auprès des lycéens et auprès des étudiants pour avoir le bon discours sur c'est quoi le rôle démocratique de la presse aujourd'hui, c'est quoi la liberté d'expression liée à la liberté de la presse et si on arrive avec cet angle pédagogique à remplir aussi cette fonction de notre métier, ce sera bien parce qu'on l'avait un peu oublié, on intervenait de temps en temps, les journalistes interviennent depuis de nombreuses années à la semaine de la presse à l'école, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est pas suffisant, il faut non seulement défendre la démocratie et défendre la liberté d'expression avec nos canards dans les contenus, avec les dessins de presse, avec les rédactionnels et autres, mais aussi intervenir dans la société, être plus citoyen.
Agnès Morin, directrice du Club de la Presse à Montpellier, qui souhaiterait donc voir les journalistes intervenir plus souvent dans les écoles. Pour autant, est-ce que certains journalistes eux-mêmes ne devraient pas être rappelés à la déontologie au vu des erreurs qui sont apparues dans le traitement en direct des attentats ? C'est la deuxième question que Baptiste Flayols a posée à Agnès Morin. Voici sa réponse.
Je ne sais pas si c'est une déontologie. Ce qui est sûr, c'est que, vous le savez aussi bien que moi, la presse est pas en évolution, mais en révolution. Il y a de nombreux secteurs d'activité avec l'arrivée du numérique. On orienté le travail des professionnels de l'information vers plus de rapidité. On est obligé d'aller très vite, de donner l'information très très vite et on le subit. Je pense que les professionnels le subissent plus qu'ils ne le veulent et c'est vrai que ça vient à l'encontre parfois de la déontologie. Donc il y a un travail, vous avez raison, de réflexion, de voir si c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'il faut être le premier sur l'information ? Est-ce qu'il faut la donner ? Ou est-ce qu'il faut attendre ? Alors il y a sûrement la place pour les deux, mais vous avez raison, il faut quand même rester dans les clous de notre métier, c'est-à-dire vérifier l'information et au moins essayer de prendre ce temps-là.
Agnès Morin répondait à Baptiste Flyols pour Radio Aviva.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Faire vivre la laïcité dans nos établissements, c'est le titre d'un séminaire organisé mardi 20 janvier dernier par l'Académie de Montpellier. La laïcité de nouveau sur le devant de la scène après les attentats à Paris. Reportage de Lauriane Havard.
Sur place, toute la communauté éducative présente et bien sûr des élèves, mais aussi l'intervention d'Ebdenour Bidar, philosophe et chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Pour lui, la laïcité doit se construire. Pour cela, il faut responsabiliser les élèves.
Il faut à tout prix impliquer la participation des élèves, l'activité des élèves. On ne peut plus faire comme autrefois, le professeur qui parle et l'élève qui se tait, qui écoute et qui enregistre. Hein. Donc sur la laïcité, mais aussi dans tout le domaine moral, il faut que les élèves soient mis en activité et mis en responsabilité.
Responsabiliser les élèves, mais aussi former les enseignants, un point indispensable pour Armand Lepelec-Muller, recteur de l'Académie de Montpellier.
Des formations aujourd'hui sont prévues pour que chaque enseignant puisse aujourd'hui revendiquer cette double mission, celle de la transmission des connaissances et dans le même temps celle de la transmission des valeurs, l'ensemble de ces thèmes dont chacun veut s'approprier, notamment nos élèves.
Des élèves qui se sont rassemblés suite aux attentats à Paris, mais pour Léa et Claire, deux lycéennes, il ne faut pas en rester là et oublier.
Je pense que plus on va avancer, de nouveau, on va pas oublier mais passer à autre chose. Il faut toujours que ça reste d'actualité parce que c'est un thème qui est très important et qui devrait être objet de débat.
Parler de ça pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est dommage que justement on remette le point dessus sur la laïcité qu'on ne s'est pas levé avant.
Un séminaire sur la laïcité qui doit conduire à l'élaboration d'un guide pour l'ensemble des établissements de l'Académie de Montpellier.
C'était un reportage de Lauriane Havard pour RCF Hérault. Carnet de région, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes les radios associatives du Languedoc-Roussillon qui y ont participé et à très bientôt pour un nouveau numéro.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.